France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Depuis une trentaine d'années, on sait que les animaux sont capables d'automédication. Ce comportement a été observé chez 71 espèces, dont 46 primates. Que trouve-t-on dans la pharmacie des grands singes ? Longtemps considérée comme une caractéristique exclusivement humaine, la médecine animale remet en question les frontières de l'animalité. Les chimpanzés, nos plus proches cousins, utilisent des plantes à des fins thérapeutiques. Dans de très rares cas, lorsqu'ils sont blessés, ils utilisent des mouches écrasées, les appliquent sur leurs plaies ou celles de leurs congénères. Un comportement qui rappelle celui d'un docteur avec un patient. Alors que l'on peine à trouver de nouveaux antibiotiques, la médecine animale est-elle l'avenir de la pharmacopée humaine ? Animaux, médecins, malgré eux. Sabrina Krieff, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes vétérinaire, primatologue, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste d'écologie comportementale et de zoopharmacognosie. Nous sommes en ligne également avec Tobias Deschner, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes biologiste des comportements à l'université d'Osnabrück et rattaché à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment les animaux choisissent-ils leurs plantes médicinales ? Que nous apprennent ces pratiques sur leur culture, leurs capacités cognitives et sociales ? Et peut-on s'en inspirer pour trouver des traitements qui nous soient utiles ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Et on commence par l'écoute, celle d'un pionnier, un pionnier de cette discipline, Michael Hoffman, c'est notre archive du jour.
C'est sur ce point que j'ai passé une grande partie de ma carrière. L'un des principaux sujets que j'ai étudié est ce qui rendait les animaux malades et que font-ils pour se sentir mieux. Cela semble être une question très ésotérique, mais j'ai pensé à partir de ce moment-là que, au-delà de la valeur scientifique intrinsèque de la compréhension de la façon dont les animaux pourraient se soigner, il pourrait être bénéfique pour leur conservation d'attirer l'attention des autres sur l'importance et la valeur de ces animaux. Que peuvent-ils nous apprendre à l'avenir ? Et bien sûr, cela pourrait avoir des implications directes sur la santé humaine. Les observations que j'ai faites sur ce chimpanzé ont constitué la première description et analyse scientifique d'un animal qui est tombé malade et s'est rétabli dans les 24 heures. Jusqu'alors, les gens pensaient qu'il existait des preuves folkloriques et anecdotiques d'animaux utilisant des médicaments, mais il s'agissait du premier document scientifique à parler de ce phénomène.
Voilà Michael Hoffman dans une conférence TEDx le 10 juillet 2012. Sabrina Krieff, ce primatologue américain fait énormément de recherches sur la médication des animaux et particulièrement sur celle des chimpanzés.
Oui, c'est un des pionniers, Mike Hoffman, avec Richard Wrangham, à avoir mis en évidence que les chimpanzés utilisaient des plantes, donc soit pour leurs propriétés mécaniques, c'est le cas de Richard Wrangham, qui a montré que les chimpanzés pouvaient utiliser des plantes donc qui ont des faibles valeurs caloriques et qui permettaient l'expulsion de parasites. Donc ça, c'était pour l'effet mécanique. Et Mike Hoffman a été le premier à montrer une action chimique de tige très amère d'une plante qui s'appelle Vernonia amygdalina et qui était bien connue par les populations humaines comme médecine traditionnelle. Et c'est ça qui l'a alerté, cette consommation d'une plante de médecine traditionnelle par une chimpanzé malade. Et il a eu la chance, parce que c'est difficile, de pouvoir suivre cette chimpanzé malade, sa consommation et sa guérison, et de pouvoir poursuivre ses observations par des analyses chimiques avec une équipe spécialisée en chimie des substances naturelles.
On reviendra dans quelques instants sur les difficultés de la primatologie sur le terrain pour étudier ses comportements. Mais Tobias Deschner, une réaction vous aussi à l'écoute de cette archive. On entendait Michael Hoffman dire que ça pouvait sembler très ésotérique au début. C'est-à-dire que quand il a commencé à publier ses découvertes, il y avait énormément de scepticisme.
Oui, il a rencontré beaucoup de scepticisme. Mais un problème qu'il faut se rendre compte, c'est aussi que vraiment donner des épreuves que quelque chose comme une médication existe chez les animaux, c'est parfois assez compliqué parce qu'il y a plusieurs étapes où il faut montrer des capacités cognitives, mais aussi les substances chimiques qui existent aussi une amélioration de l'état de l'animal, et ça c'est très très difficile à montrer, même si tout le monde est d'accord que ça existe.
Alors c'est l'étude des chimpanzés qui a permis l'émergence donc de la zoopharmacognosie comme discipline de recherche moderne occidentale dans les années 80. Sabrina Kriev, quelle différence entre zoopharmacognosie et automédication?
C'est un peu ce que Tobias a amorcé dans son explication. C'est que donc, l'automédication concerne donc, l'utilisation de substances naturelles, donc ça peut être des plantes, ça peut être de la terre, pour se soigner. Donc il s'agit vraiment du comportement. Alors que la zoopharmacognosie, si on prend vraiment étymologiquement le terme, c'est l'étude des produits qui vont être utilisés par les animaux en automédication ou éventuellement en soins, comme Tobias va nous l'expliquer, parce que effectivement, on parle de façon générale d'automédication des animaux et les cas de soins sont encore extrêmement rarement documentés. Mais donc, la zoopharmacognosie, c'est s'intéresser aux propriétés biologiques et à la chimie des plantes. Donc aller jusqu'à l'extraction des feuilles, des tiges, des écorces ou de l'insecte qui va être utilisé pour trouver quelle est la molécule responsable de cette activité qui peut soigner les animaux qui la consomment.
On a des premiers exemples écrits d'automédication animale dans l'histoire des animaux d'Aristote au 4e siècle avant notre ère. Mais du côté des scientifiques, récemment, on a pas mal de pratiques qui ont été décrite. Est-ce qu'on peut faire ensemble, Sabrina Kriev, un panorama de ces différentes pratiques dans le monde animal?
Oui, alors en fait, c'est assez étonnant de voir l'échelle animale, sur un aspect phylogénétique assez varié, les différentes pratiques. Parce que, en fait, il y a beaucoup de documentation qui sont faites autour des insectes, notamment des insectes sociaux. Donc ça peut être des pratiques qui consistent à utiliser des résines d'arbres, par exemple, pour lutter contre les bactéries ou les parasites. Il y a aussi des pratiques de soins qui n'impliquent pas forcément de soins à partir de substances naturelles, comme récemment deux très belles études qui ont montré que les fourmis étaient capables de réaliser des amputations et que le soin, le type d'amputation était fonction de la gravité de la jambe cassée de la fourmi. Donc on peut aussi aller dans le monde des oiseaux, et là il y a beaucoup de pratiques qui peuvent être aussi préventives, donc ce qu'on appelle prophylactiques en médecine. Et l'ajout, par exemple, de matériel dans le nid, de substances qui vont permettre de protéger les poussins contre des infections de parasites. Et puis, après, chez les mammifères, en fait, il y a beaucoup de cas qui sont décrit de façon encore anecdotique, pas forcément avec beaucoup de suivi sur le long terme, mais beaucoup d'espèces effectivement qui pratiquent par exemple le fur rubbing, donc c'est utiliser des plantes ou même des insectes pour se frictionner le corps, donc ça des usages externes, et toute une gamme aussi de plantes qui sont consommées, mais c'est vraiment les chimpanzés et les grands singes de façon générale, parce qu'on commence aussi à avoir des données sur les orang-outans, qui ont donné le plus d'études de suivi longitudinal et la meilleure documentation en fait des différentes gammes de plantes ou de substances naturelles qui peuvent être utilisées en fonction des symptômes.
Tobias Deschner, pour compléter vous aussi ce panorama des animaux médecins.
Bon, oui, je crois que Sabrina, elle a déjà donné un résumé plus ou moins parfait, mais il faut dire qu'une chose qui est pour moi le plus fascinant, c'est aussi qu'on voit que les animaux ne les font pas seulement sur eux-mêmes, mais aussi ils prennent soin des autres. Et ça aussi, ça se voit des insectes qui, comme Sabrina a dit, qui les fourmis qui font les amputations, jusqu'au grand singe où on observe les chimpanzés qui mettent les insectes dans les plaies des autres. Et bien sûr, ça, ce qui existe aussi chez les oiseaux, mais aussi sur les abeilles, c'est que cette fumigation des nids. avec des substances pour lutter contre les parasites.
Chez les fourmis, en l'occurrence, donc en effet, il y a cette amputation, mais on a aussi une pratique de l'automédication collective. Je lisais, pour préparer cette émission, que les fourmis d'Argentine, lorsqu'elles sont infectées par un champignon parasite, elles modifient leur alimentation collectivement. Elles consomment un régime plus riche en acides aminés pour compenser le coût énergétique que leur impose l'activité de leur système immunitaire dans sa lutte contre le parasite. Sabrina Krief, ça veut dire aussi peut-être que l'automédication, c'est pas spécifique aux animaux avec de grandes fonctions cognitives ?
Oui, effectivement, et c'est là où vraiment l'étude des substances et des façons dont l'automédication est pratiquée est vraiment intéressante, parce que on peut vraiment avoir une gamme de cas qui nous permettent de éventuellement tester des hypothèses. Donc on voit des comportements prosociaux, donc envers les autres, chez les fourmis, ça a été bien décrit et c'est relativement courant. On sait aussi par exemple que des chenilles vont pondre leurs œufs sur des plantes qui vont pouvoir, si elles sont infectées, prévenir les infections chez leurs descendants. Donc ça aussi, c'est un comportement prosocial qui est absolument étonnant et pour lequel on ne peut pas forcément penser qu'il y a une conscience du soin de la progéniture. Quand on avance dans les différentes espèces, je suis sûre que Tobias nous fournira des arguments concernant les chimpanzés et les théories qui sont derrière tout ça. Donc la question de l'empathie, voilà. Donc c'est vraiment un champ disciplinaire qui est passionnant parce que on peut émettre différentes hypothèses en fonction des espèces qu'on étudie et de la gamme de substances qui peut être utilisée.
Alors du côté des primates et des chimpanzés que vous étudiez tous les deux, Sabrina Krief, comment mettre en évidence justement que les chimpanzés utilisent des plantes pour se soigner ? Ça me semble être un travail très fastidieux, très long, très compliqué.
Oui, c'est extrêmement long et compliqué, avec beaucoup de contraintes, notamment parce que donc les chimpanzés, étant nos plus proches parents, sont aussi sensibles à nos maladies. Et donc pour ce faire, on doit garder des distances avec eux et également on fait des prélèvements et des analyses qui sont non invasives. Ça veut dire que si on a un doute sur une maladie, on ne va pas l'endormir, faire une prise de sang et faire une analyse pour faire le diagnostic de la maladie. Il va falloir utiliser l'observation et les prélèvements qu'ils veulent bien nous donner, à savoir les urines et les crottes. Et donc, le plus souvent, les informations qu'on a sur leur état de santé se traduisent par de la toux, des éternuements, des blessures et éventuellement donc des parasites digestifs ou des anomalies qu'on peut détecter via les urines. Donc il y a d'abord cette difficulté à faire un diagnostic. Ensuite, il y a la difficulté à suivre les chimpanzés qui ont un système social qu'on appelle fission-fusion. Donc tous les individus ne sont pas ensemble en même temps. Et quand on veut suivre un individu en particulier, c'est extrêmement dur de pouvoir le suivre sur un temps long. Donc du moment où il exprime des symptômes jusqu'au moment où il va guérir. Et enfin, il faut avoir une extrêmement bonne connaissance du régime alimentaire et du comportement des chimpanzés, de la communauté qu'on étudie, pour savoir s'ils consomment une plante qui nous semble inhabituelle, si c'est bien quelque chose qui pourrait être de la médecine ou si c'est juste un manque de connaissances de notre part. Puisqu'en fait, on suppose qu'une plante médicinale, elle va être consommée en petite quantité, rarement, par un individu malade ou par un individu qui s'isole du groupe et non pas par l'ensemble du groupe. Donc il faut avoir déjà une très très bonne connaissance du régime alimentaire, sachant que par exemple sur les chimpanzés que j'étudie, j'ai pu répertorier 400 aliments différents. Donc parmi ces 400, il y a évidemment des plantes qui ont des propriétés susceptibles de soigner, mais il faut déjà avoir cette connaissance pour pouvoir évaluer la fréquence et les conditions dans lesquelles cette plante est consommée.
Oui, tout ça, Tobias Deschner, ces études et ces analyses-là, elles se font dans des conditions de travail extrêmement difficiles.
Oui, et une chose qu'on peut ajouter, c'est que une chose qui est bonne pour les chimpanzés, mais difficile pour nous qui veulent faire les études, c'est que pour la plupart du temps, ils sont dans une bonne santé, quoi. Donc, ça rend les observations des cas des maladies assez rares. Et donc, pour vraiment avoir une base de données assez solide pour faire les analyses, ça prend beaucoup, beaucoup du temps. Donc, ça dépend aussi de la population des chimpanzés avec la, avec laquelle on travaille. Donc, par exemple, avec la population avec laquelle Sabrina elle travaille, là, c'est un comportement en gestion des plantes pour une raison médicale. Ça se voit assez souvent, même qu'il faut avoir cette connaissance de ce qu'elle a parlé sur les espèces de plantes différentes. Mais dans notre population avec laquelle nous travaillons au Gabon, dans le parc national de Loango, là-bas, la plupart des comportements qu'on observe sur un niveau médical, c'est l'application des insectes dans les plaies et aussi l'application des feuilles des espèces différentes dans les des plaies. Donc là, au moins, on a cette avantage que ça se voit assez facile dès que ça se passe.
Voilà, entre ces deux populations de singes éloignées, comme vous dites, entre le Congo et le Gabon, les pratiques sont totalement différentes. À quel point restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Sabrina Krief et Tobias Deschner, nous parlons de zoopharmacognosie, terme inventé en 1987 et qui signifie la connaissance des médicaments chez les animaux. Les chimpanzés ne se contentent pas de manger des plantes alimentaires, ils consomment environ 400 aliments différents, on vient de le dire, dont 10 à 15% qui possèdent des propriétés médicinales importantes. Sabrina Krief, quelles sont justement ces plantes bioactives qui sont consommées par les chimpanzés ?
Alors en fait, pour découvrir ça, on a deux moyens. Tout d'abord, des enquêtes auprès des populations locales qui sont vraiment des informateurs de très grande qualité et qui, parce qu'ils utilisent le même environnement, ont une connaissance ancestrale de des plantes qui les entourent. Donc cette première étape est vraiment très intéressante et là aussi, il demande du temps et des compétences. Donc souvent, on travaille en équipe, donc non seulement avec des ethnologues, mais également des botanistes, puisque, comme le disait Tobias, il faut être capable d'identifier ces plantes qui parfois sont mangées extrêmement rarement par les chimpanzés. Une fois qu'on a identifié la plante, qu'on a pu observer un chimpanzé qui avait un comportement inhabituel, donc qui va manger une très petite quantité d'une écorce ou d'une feuille qui habituellement n'est pas consommée, ces plantes-là ayant souvent des goûts très désagréables, donc ils sont amers, astringents, etc. Et ça, c'est un premier indice, donc goûter est aussi très, très important dans ces cas-là, puisqu'en fait, on a pratiquement la même perception gustative avec les chimpanzés. Bon, on va récolter cette plante, faire de la bibliographie, donc chercher dans la littérature si cette plante est connue pour des activités biologiques, donc par exemple comme des propriétés antibiotiques, ou des propriétés antiparasitaires. Et si ce n'est pas le cas, de notre côté, on va travailler donc soit avec des équipes de chimistes ou de pharmacologie pour faire les autres tests d'activité biologique et ensuite identifier les molécules. Donc c'est un travail très fastidieux parce que en fait, on peut mettre à jour des molécules complètement nouvelles ou même si la plante n'est pas décrite dans la littérature, mettre à jour des molécules qui sont déjà connues dans d'autres espèces végétales. Et là, pour les chimistes, c'est extrêmement décevant. Mais pour nous... C'est extrêmement gratifiant parce qu'on a montré que les chimpanzés finalement consommaient une plante qui avait des propriétés et des molécules actives.
Mais il y a l'exemple de cette jeune femelle chimpanzée Kilimi en Ouganda que vous avez suivi, Sabrina Krief. Cette femelle qui mangeait des écorces d'un gros arbre, vous avez goûté aussi ces écorces ?
Oui, ces écorces, elles ont une certaine amertume, mais elles ne sont pas si désagréables. En fait, ce qui m'a surtout étonnée lors de cette consommation, c'est que le reste de sa famille, donc sa mère et ses frères et sœurs, ne consommaient pas du tout cette plante-là, alors qu'elle, jeune chimpanzé, déployait des efforts considérables pour arracher des petits morceaux d'écorce et en manger, en gratter avec ses dents l'intérieur pour récupérer une espèce de résine. Et c'était une chimpanzée que je suivais l'attendait depuis déjà plusieurs jours parce qu'elle avait des problèmes digestifs. Donc ça, ça a été vraiment ce qui m'a mis sur la piste d'une éventuelle activité biologique. Et ensuite, donc une fois que j'ai confirmé avec mes assistants que c'était une plante qui était utilisée aussi pour les maux de ventre par les populations locales, ça a ouvert la voie à un travail de 2 années de post-doctorat en chimie des substances naturelles, donc pour mettre à jour les saponosides qui étaient responsables d'une activité vermifuge. Donc on a bien confirmé que la chimpanzée avait consommé ses écorces en fonction du symptôme qu'elle ressentait a priori, puisqu'il y avait vraiment beaucoup de parasites. Elle a guéri 2 jours après, donc tout s'enchaînait bien. Et puis, ces saponosides étaient nouveaux, donc potentiellement intéressants pour les chimistes, avec également des très fortes activités antitumorales.
C'est un incroyable travail de chimie. Alors, on évoquait en première partie d'émission les comportements prosociaux. Tobias Deschner, en 2022 au Gabon, dans le parc national de Luanga, vous avez observé des singes qui appliquent des soins sur leurs plaies mutuellement. C'est une observation extrêmement rare. Justement, c'est des singes qui mettent, si je me trompe pas, des petites mouches, des petits insectes. On ne sait pas exactement quels sont les insectes en question, mais ils les appliquent sur leur bouche, ils les écrasent et ils le placent soit sur leur plaie, soit sur ceux de leurs congénères, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. Et il faut dire que même qu'on a fait des observations déjà des chimpanzés assez proches, depuis des années, on n'a jamais fait cette observation. Et dans les premiers cas où c'était une étudiante de notre projet, Alessandra Mascaro, qui a fait cette observation, quand elle a fait cette observation, l'avantage c'était qu'elle a le filmé en même temps. Parce qu'en seulement regardant, elle n'a pas compris de ça ce que se passe. Et seulement après revu plusieurs fois la séquence vidéo, tout d'un coup, elle a mis les puzzles un peu ensemble et elle a constaté qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Elle m'a demandé si moi je vois les mêmes choses et moi j'ai confirmé que oui. Ça, ce que moi je vois, c'est qu'il y a un insecte qui est attrapé et qui est mis dans le plaid d'un autre individu. Mais les choses qui étaient vraiment le plus fascinant, c'était dès qu'on a montré le tel vidéo à tous les autres membres de notre équipe, là, tout d'un coup, tout le monde a commencé à avoir le même comportement. Donc, ça veut dire que c'était pas un comportement complètement nouveau, mais c'était quelque chose qu'on a raté parce qu'on n'a pas compris de ça ce que se passe.
Mais alors, cette pratique, c'est plutôt une pratique de désinfection ou d'apaisement?
Ça, c'est exactement la question sur laquelle on travaille maintenant. Parce que, bien sûr, ce serait génial si on trouve que, oui, il y a aussi des propriétés antibiotiques dans les mouches et c'est quelque chose qui n'est pas même pas trop improbable. Mais de mon opinion personnelle, moi, je crois qu'il faut avoir une propriété en plus d'une propriété antibiotique parce que je crois au moins qu'il faut avoir une récompensation immédiate. Donc peut-être, mais ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien étudier, faire les analyses, c'est que peut-être il y a aussi des propriétés analgésiques des tels insectes que les chimpanzés utilisent.
Sabrina Krief, vous n'avez jamais observé cela chez les communautés de singes du Congo et de Ouganda?
Alors, au Congo, en fait, quand je suivais les chimpanzés orphelins, j'ai vu des chimpanzés appliquer des feuilles sur des plaies congénères, mais c'était des chimpanzés qui avaient été élevés, entre guillemets, chez des humains. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils étaient orphelins, ils avaient été arrachés à leur mère et ils avaient une sorte de mère de compensation. Donc, ces pratiques de nettoyage de plaies, ils les avaient probablement observées et vécues. Chez les chimpanzés en Ouganda, que j'étudie depuis 25 ans, je n'ai jamais observé de soins de congénères autour des plaies. Bien au contraire, en fait, la plupart du temps, même quand on voit très bien qu'un congénère a détecté une plaie, il va avoir tendance à épouiller tout autour de la plaie, mais surtout à ne pas toucher la partie qui est blessée. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est des applications de plantes, soit pour nettoyer, pour enlever le pus, soit pour stopper une hémorragie, par exemple, avec aussi parfois des ingestions de fleurs antibiotiques, etc., mais jamais sur un congénère. Peut-être ce qui est intéressant aussi à mentionner, parce que là, on parle de deux communautés différentes, et je pense qu'on va y venir à la question de la culture, mais il y a quelque chose qui est très caractéristique dans la publication de Tobias et de ses co-auteurs, c'est que le nombre de plaies qui a été enregistré pendant leur étude, qui était de 15 mois, je crois, Tobias, est très très important. Et dans le cas des chimpanzés de Sébitoli, c'est extrêmement rare en fait qu'ils aient autant de plaies. Les cas de plaies, c'est quand il y a un piège, éventuellement quand ils se battent, mais c'est extrêmement rare qu'ils se battent. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi des comportements qui peuvent être produits et observés plus fréquemment. On ne sait pas encore si peut-être que ça existe à Sébitoli, et c'est vraiment super que cette publication de Tobias ait pu sortir, parce que ça nous a tous alertés. La communauté de primatologues s'est tous dit « Ah, mais peut-être que les nôtres le font aussi ». Et donc maintenant, dès qu'il y a des mouches autour d'un chimpanzé, on essaye tous de voir si ils les attrapent et ce qu'ils en font. Donc ça, c'est aussi très très précieux, cette publication, pour cette raison.
Sur ces différences de plaies et de blessures, Tobias Deschenin, ça veut dire aussi qu'il y a cette importance de l'environnement à prendre en compte. C'est-à-dire que les chimpanzés que vous observez, Tobias Deschenin, ils ont aussi affaire à des prédateurs, il y a des léopards dans le coin, il y a de la bagarre, comme nous disait Sabrina Krief.
Oui, oui. Je crois que là, comme Sabrina l'a expliqué, il y a vraiment des différences environnementales ou sociales qui rendent la situation dans laquelle se trouve un groupe de chimpanzés assez différent. Et comme elle a dit, la fréquence des blessures que nous observons dans notre groupe, c'est vraiment extraordinaire. On n'a pas encore compris pourquoi, mais c'est vrai que pendant les dernières deux années, on a vu des centaines de blessures ouvertes. Et ça, c'est assez rare. De l'autre côté, je crois que aussi cette fréquence plus élevée sur l'application ou sur la consommation des plantes avec les propriétés vermifuges dans les endroits de l'Afrique de l'Est, ça peut aussi être peut-être en relation avec cette distance assez proche entre les hommes et les chimpanzés. Donc j'ai l'impression, mais peut-être si Sabrina elle peut l'expliquer un peu mieux, c'est que cette probabilité que les chimpanzés là-bas peuvent s'infecter avec les parasites qui viennent de l'homme sont beaucoup plus hauts que dans un endroit au Gabon où la distance entre les populations locales et les chimpanzés sauvages, ils sont encore assez grands.
Oui. Oui, en effet, en fait, nous, dans le site où on travaille, à Sébitoli, les chimpanzés n'ont pratiquement pas de voisins chimpanzés. Leur territoire est entouré d'activités humaines et de cultivateurs qui donc sont dans leur jardin. Et les chimpanzés, évidemment, sont extrêmement attirés par les plantes appétantes. Au niveau des champs, il y a un passage de parasites vraiment important. Donc, effectivement, il y a la question de l'environnement, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même des questions culturelles, puisque là, quand on compare deux groupes de chimpanzés qui sont vraiment éloignés géographiquement entre le Gabon et l'Ouganda, on peut se dire, bon, il y a effectivement un environnement, des prédateurs, des circonstances différentes. Mais même au sein d'une même population, donc de chimpanzés qui vivent dans les mêmes conditions d'environnement, qui ont les mêmes plantes à disposition, deux communautés voisines ne vont pas forcément utiliser les plantes disponibles de la même façon. Et c'est là que c'est passionnant, parce que ça ouvre beaucoup, beaucoup de questions autour de comment ils apprennent, comment ils se transmettent et comment ça se maintient au sein d'un groupe.
C'est ça, ça ouvre la question, Tobias Deschenin, de la culture, de pratiques qui sont maintenues et transmises, et de la fameuse question de l'inné ou de l'acquis. Est-ce que ce sont des soigneurs nés ou des soigneurs apprentis ?
Oui, donc comme Sabrina l'a déjà dit avant, C'est sûr que si on regarde sur l'échelle ou sur la diversité des animaux, il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle. Mais pour les chimpanzés, moi, je suis convaincu que les tels comportements, ce sont les comportements culturels. Et pourquoi? Parce qu'ils sont transmis avec un apprentissage. Et ça aussi, c'est quelque chose dans lequel nous regardons maintenant. Ça veut dire, si maintenant... on était capable d'identifier les espèces des insectes. On n'allait pas encore publier. Donc, pour cette raison, je ne peux pas parler trop de ce sujet-là. Mais on sait maintenant très bien quels insectes les chimpanzés utilisent, quelles espèces utilisent, lesquelles espèces ils n'utilisent pas. Et maintenant, on peut les mettre en relation avec l'âge de l'individu qui l'applique. Ça veut dire... est-ce que c'est possible que les chimpanzés savants sont les individus les plus âgés? C'est qu'un individu assez âgé utilise beaucoup plus nombre des espèces qu'un individu qui n'est pas encore assez expérimenté et qui est encore en train de faire des erreurs. Et à la fin, si on peut aussi avoir assez d'échantillons, des espèces, des insectes différents, on peut aussi attaquer la question sur les substances potentiellement actives sur un niveau pharmaceutique.
Sabrina Clair, vous faites une étude autour de la consommation de plantes rarement consommées et vous souhaitiez voir justement quels individus du groupe, s'ils consommaient cette plante-là, étaient susceptibles d'être imités par les autres membres du groupe.
Oui, on a fait ça avec ma collègue Shelley Massey qui étudie les gorilles et donc on a comparé les chimpanzés que j'étudie et les gorilles qu'elle étudie pour voir quand un individu consomme un aliment inhabituel, si ses congénères étaient intéressés, curieux, et autour de qui ils se regroupaient le plus. Et en fait, chez les gorilles, ça n'a pas donné grand-chose. En fait, la structure sociale des gorilles est un peu compliquée, et surtout les gorilles qu'elle étudie, les gorilles de l'Ouest, détestent qu'on s'approche proche d'eux et qu'on les regarde dans les yeux. Par contre, chez les chimpanzés, on a vraiment clairement montré que l'individu modèle était un individu qui avait entre 25 et 40 ans, donc un chimpanzé mature, que ça pouvait être un mâle comme une femelle, donc pas uniquement les mères qui transmettent et qui apprennent à leurs petits, et qu'ils étaient observés par des individus jeunes, mais également par des individus adultes. Et ça, c'est vraiment important parce que chez les chimpanzés, ce sont les femelles qui migrent à l'adolescence. Et donc, quand elles arrivent dans leur communauté où elles vont rester jusqu'à la fin de leur jour, elles doivent non seulement rencontrer leurs congénères, qu'elles ne connaissent pas, elles ne connaissent personne, et elles doivent aussi... apprendre les cultures, voire transmettre leur propre culture. Et donc, le fait qu'elles continuent à observer, même après l'adolescence, c'est un indice de transmission culturelle et d'apprentissage qui, pour moi, est vraiment intéressant, puisqu'on a toujours un peu l'impression que tout est fait quand on atteint l'adolescence. Bah non, chez les animaux aussi, et comme chez nous, l'apprentissage quand on est adulte et mature est aussi très important.
Mais cette transmission culturelle peut-elle être utile aux humains? Les chimpanzés peuvent-ils être une source d'inspiration pour la recherche pharmaceutique? Restez à l'écoute.
Thank you.
Little Monkey de The Rambling Wheels. En direct sur France Culture, nous parlons de médication animale et notamment de médication chez les primates. On en parle avec Sabrina Kriev, vétérinaire et primatologue, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, et Tobias Deschner, biologiste des comportements à l'Université d'Osnabrück. On vient de voir comment certaines espèces ont des comportements d'automédication, qu'un grand nombre d'animaux identifient des plantes et des substances d'intérêt pour se soigner ou se soulager. On continue d'en parler pour le reportage du jour et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes intéressée au cas des éléphants d'Asie qui semblent rechercher les mêmes plantes que les humains qu'ils utilisent pour certains troubles.
Parmi les espèces dont on a pu observer un comportement d'automédication en milieu naturel, les éléphants d'Asie sont un cas d'étude à la fois éthologique et ethnologique. Jean-Marc Dubost, chercheur associé au MNHN et à l'IRD, a étudié au Laos comment ces éléphants consomment des plantes aux vertus thérapeutiques. Alors sur le terrain, le chercheur accompagne les cornacs des compagnons de vie de ces éléphants pour analyser comment, par exemple, un individu blessé va écorcer du Canarium subulatum pour soulager sa plaie, une connaissance instinctive qui soulève la question d'une transmission potentielle de savoir entre l'humain et l'éléphant.
Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est arrivé en forêt, droit sur un arbre, et qu'il a commencé à écorcer, et avec la trompe, il passe la défense dessous, et il remonte le long du tronc et comme ça il décolle des lambeaux, de grands lambeaux de plusieurs mètres
d'écorce,
voilà. Et donc il la consomme au fur et à mesure. Et il a passé une heure à écorcer intégralement cet arbre. Hein, vous allez voir.
Là, on est vraiment en première loge, on voit. Oui.
Voilà, j'étais à quelques mètres. J'étais sous la trompe, on peut dire.
Il s'agit de quelle espèce d'arbre, là ?
C'est un spécimen de Canarium subulatum, là, avec un tronc de à peu près 20 cm.
Complètement nu, en fait.
Voilà, c'est ça. Les éléphants sont des herbivores très généralistes et ils mangent une quantité très, très, très variée de végétaux. Et de parties végétales, ça peut être des racines, des écorces, des rameaux feuillés, des herbacées aussi à la saison des pluies. Donc on a fait un inventaire des connaissances des cornacs sur leur régime. Et en sortant en forêt, on récoltait des échantillons à chaque fois qu'ils montraient une plante. Et on est arrivé à peu près 115 espèces.
Un régime très varié.
Très varié, voilà. Et alors, ce qui était très intéressant, parce que je leur demandais les contextes aussi de consommation, et donc pour une vingtaine de plantes et d'items végétaux, ils m'ont dit que les éléphants les prenaient. Alors, la première chose, c'était en lien avec une pathologie particulière. Ça pouvait être la diarrhée, la fatigue, des éruptions cutanées, des choses comme ça. Et aussi, pour les femelles, les femelles privilégient certaines espèces et certains items végétaux pendant leur période de maternité, c'est-à-dire la période qui s'étend de la gestation à l'allaitement.
Au sevrage, oui.
Voilà, jusqu'à la. Donc, ça peut être pour avoir du lait, ça peut être aussi pour l'accouchement, etc. Et c'était une chance incroyable. En fait, les conditions étaient particulièrement favorables parce qu'il s'agissait d'un éléphant assez âgé et qui est arrivé il y a quelques années. Il souffrait d'une fracture qui s'était mal consolidée. Il a cette fracture à la patte arrière. Il a la jambe toute déformée.
L'articulation est tordue.
Voilà. Et puis, à la hanche gauche, il souffre d'une grosse... Enfin, il avait une plaie. Là, elle est déjà bien à moitié refermée. Il avait une grosse plaie purulente de la taille d'un point humain.
On voit en effet une grosse cicatrice, une balafre haut de sa cuisse.
Voilà. Et cette plaie, ça faisait un an qu'il était traité pour cette plaie. Elle était chronique. Elle suppurait en permanence. Et puis l'éléphant dépérissait, il perdait du poids, et il n'avait plus de cycles hormonaux comme on les mâles de façon périodique. Et un jour, le manager a dit, comme j'interrogeais les cornacs, a dit à l'équipe vétérinaire, mais les cornacs disent que pour le meilleur moyen de soigner un éléphant, c'est de le relâcher en forêt. Pourquoi on n'essaye pas, quoi, tout simplement? Et à ce moment-là, il y avait un vétérinaire, un grand spécialiste des éléphants en Asie du Sud-Est qui était là et qui a dit, mais si vous arrêtez de lui traiter sa plaie, si vous le relâchez, dans 10 jours, il est mort, quoi. Et finalement, ils ont dit, oui, mais quelle vie il a. de toute façon. Donc ils ont décidé d'essayer. Et moi, je suis arrivé un mois et demi après, et ils m'ont dit qu'il allait beaucoup mieux. Il avait repris du poids, il avait repris de l'allant, et surtout, il retournait vers les autres éléphants. Il avait repris une activité sociale, on peut dire, parce qu'avant, il vivait isolé. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on a pu observer de
Alors justement, donc je me suis dit, on va le suivre, je vais le suivre en forêt. Donc je suis parti avec le cornac et deux autres personnes, et voilà, je lance le... Attendez, je vais mettre le son.
C'est intéressant, le geste qui effectue, il arrive vraiment à dénuder le
tronc. Oui, ils sont très habiles hein, avec la tronque. Et donc, vous allez voir, attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, l'arbre faisait une quinzaine de mètres de hauteur, et vous voyez, il a enlevé toute l'écorce.
Il va faire tomber
l'arbre. Et à la fin même, il va le tirer jusqu'à par l'écorce, hein, par un lambeau d'écorce. Il le tire.
On voit l'arbre chuter à mesure qu'il tire sur l'écorce. Et ça y est.
Et voilà. Il a cassé l'arbre et maintenant il peut avoir accès à l'écorce qui était sur le houppier. Alors cet arbre-là, il est connu dans les pharmacopées d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires et ses propriétés anti-infectieuses.
Donc ça correspondait quasi parfaitement à ce dont il avait besoin par rapport à son articulation blessée.
Si vous voulez, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il y a adéquation entre les propriétés médicinales de ce végétal et les maux dont le mal dont souffrait l'éléphant.
C'est absolument sidérant d'observer cette scène, et on pourrait se poser la question, comment sait-il ? Est-ce que c'est un apprentissage, un héritage de la reproduction de comportement entre l'humain et l'homme ?
C'est toujours la grande question. On peut penser, il n'est pas exclu que les cornacs aient pu transmettre aussi des savoirs aux éléphants, puisque ce sont des plantes qui font partie de l'environnement que partagent les éléphants et les hommes, des plantes tirées des forêts alentour, et que les éléphants aient pu apprendre en associant le goût de cette plante qu'ils connaissent avec son effet thérapeutique s'il est assez rapide, et puis apprendre aussi des savoirs humains. Donc on arrive à un moment où on ne sait plus trop à qui sont ces savoirs. Et on appelle ça une culture multispécifique, où plusieurs espèces construisent ensemble des savoirs sur les ressources de leur environnement.
Merci Céline Lauzen. Comme tous les jours, nos reportages sont à podcaster sur l'appli Radio France et notre collection La Science au Labo. Tobias Deschner, si les cornacs ont peut-être transmis leur savoir aux éléphants, est-ce possible d'envisager une transmission des savoirs des chimpanzés vers les humains ?
Bon, bien sûr, je crois que ça, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est passé vraiment pour les chimpanzés, mais pour les autres espèces d'animaux, c'est très bien connu que les populations locales, ils observent les animaux et ils apprennent. Donc, ça aussi, c'est possible pour les chimpanzés. Et surtout, si vraiment les plantes ou les insectes que les chimpanzés utilisent, ils ont les propriétés antibiotiques, ça peut devenir assez important parce que nous savons que nous sommes dans un temps où on a une crise des antibiotiques parce que les résistances contre les antibiotiques qui sont utilisées dans la médecine humaine, il devient plus et plus grand et on a toujours besoin de nouvelles substances pour combattre les microbes.
C'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques sont dans l'urgence. On a des maladies non traitées, de la biorésistance. On sait aussi que seuls 10% des plantes sont connues pour leurs propriétés chimiques. Sabrina Kreff, ça veut dire que suivre les singes, c'est peut-être les utiliser comme guide ?
Oui, c'était un des arguments que j'ai utilisé pour convaincre les chimistes de m'accepter dans leur équipe quand j'ai fait ma thèse. Parce que, évidemment, pour eux, la finalité, c'est effectivement de trouver des nouvelles molécules qui peuvent être utiles à la médecine humaine et effectivement combler soit les absences de médicaments, soit les résistances qui se mettent en place. Et donc, évidemment, aussi de la part des équipes qui travaillent dans ces domaines, domaine-là, des biais vers certaines maladies. Et en fonction des équipes et des labos avec lesquels on travaille, on peut s'orienter soit vers des propriétés antibiotiques, antiparasitaires. Et dans mon cas, au Muséum et au CNRS, les thématiques qui intéressaient beaucoup étaient notamment le paludisme, la maladie du sommeil, toutes ces maladies qui n'intéressent pas forcément les grands labos pharmaceutiques et pour lesquels on ne savait pas encore grand-chose sur la façon dont ils pouvaient affecter les chimpanzés. Donc c'était une autre épreuve qui était de devoir valider le fait que les chimpanzés que je suivais avaient potentiellement, par exemple, le paludisme.
Et ça, vous avez d'ailleurs mené toute une série de recherches, une chaîne de recherches sur l'activité antipaludique de certaines plantes utilisées par les chimpanzés.
Oui, ça a commencé en fait par un chimpanzé qui boitait. Et là, ça pose aussi la question de savoir est-ce que les plantes sont consommées pour répondre à des symptômes ou pour répondre à la cause. Donc le chimpanzé avait mal à la jambe. Il a consommé une plante qui est connue comme étant analgésique par les populations locales. Et de ses feuilles, moi, j'ai pu extraire des molécules qui sont aussi actives que la chloroquine sur l'agent du paludisme. Donc, la question se pose de savoir si le chimpanzé l'avait consommé pour des symptômes tels que les maux de tête, qui pourraient être aussi apparentés à une douleur comme celle qu'il avait à la jambe, ou bien si c'était le parasite qui était responsable de ces symptômes qui avait suscité cette consommation. Donc là, c'est un peu compliqué parce que le chimpanzé doit vraiment être médecin et biologiste si on imagine qu'il est capable de trouver la cause de ces maux. Mais du coup, on a trouvé ces molécules très actives. Par la suite, j'ai pu mettre en évidence que les chimpanzés que j'étudiais avaient non seulement des parasites du paludisme, mais plusieurs parasites, plusieurs espèces de ce parasite dans leur sang, à des niveaux qui étaient relativement faibles. Donc, l'idée qu'ils puissent utiliser ces plantes et ces molécules pour réduire la charge parasitaire était intéressante. Par la suite, on a pu mettre en évidence 20 plantes, 20 parties de plantes dans leur régime alimentaire qui pouvaient avoir des effets sur Plasmodium, donc l'agent du paludisme. Et surtout, on a essayé aussi de savoir s'ils étaient capables d'avoir d'autres stratégies qui sont en fait d'éviter les piqûres de moustiques, puisque les moustiques sont les vecteurs du paludisme.
Et leur stratégie se cache dans leur nid.
Oui, leur stratégie se cache dans leur nid. Une première étude a consisté à poser des pièges à moustiques pour essayer de voir si les chimpanzés choisissaient des zones particulières pour construire leur nid qui seraient moins infestées de moustiques. Et donc on a confirmé ça. C'est-à-dire que même si dans l'après-midi ils mangent autour des marécages où il y a plein de moustiques, au moment où les moustiques sont prêts à piquer, les femelles moustiques piquent le soir, les chimpanzés vont construire leur nid dans des zones d'altitude où, là, statistiquement, on a montré qu'il y avait moins de moustiques. Et seconde partie de l'étude, on a analysé un millier de nids de chimpanzés qui ont été construits par 41 chimpanzés et on a pu montrer, ça c'est le travail de ma doctorante Camille Lacroux, que ces nids étaient principalement construits dans des espèces qui avaient des propriétés répulsives contre les moustiques. Donc 80% des nids sont construits à partir de 10 espèces de plantes qui ont des substances aromatiques, donc qui créent un environnement chimique qui repousse les moustiques. Là encore, je ne dis pas que les chimpanzés construisent leur nid dans ces arbres-là en ayant conscience qu'ils ne vont pas être impaludés, mais bien que c'est pour avoir un environnement agréable et éviter les piqûres de moustiques qui, comme nous, sont désagréables pour eux.
Et pour éviter, nous, les piqûres de moustiques, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ces espèces, de ces huiles essentielles aux effets répulsifs
C'était vraiment l'objectif de notre travail. Et aujourd'hui, donc, on a pu isoler les molécules responsables dans les huiles essentielles des activités répulsives. Et donc, j'ai une étudiante qui travaille à essayer de recomposer le mélange celui en fait de plusieurs arbres utilisés par les chimpanzés pour éventuellement en faire un spray anti-moustique made in chimpanzé.
depuis le début de cette émission, Tobias Deschner, on arrive à la fin malheureusement de cette discussion, mais on parle depuis le début de pharmacie animale, de pharmacie humaine, tout ça est encore en train de brouiller les pistes entre les frontières entre l'animalité et l'humanité.
Oui, moi je suis sûr qu'il y a vraiment, comment on appelle ça, un continuum entre les comportements des animaux et des hommes. Et une chose de ce qu'on n'a pas encore abordé, c'est si on accepte que cette manière d'utiliser les substances, ça aussi a c'est un comportement culturel. On pourrait aussi s'imaginer que, surtout les chimpanzés, ils ont les comportements médicaux avec aucun effet. Ça veut dire qu'ils les utilisent comme un placebo. Et ça aussi, ça les rendrait un peu même plus proches de l'homme, parce que si on regarde dans notre comportement médical, il faut constater que la plupart des choses que nous utilisons, ils n'ont pas un effet sur le niveau scientifique. Donc, je ne veux pas écarter cette possibilité aussi.
Sabrina Krief.
Oui, tout à fait. En fait, on mentionnait le fait que les chimpanzés peuvent nous servir de guide et un des arguments des chimistes et des pharmaciens pour effectivement suivre les chimpanzés plutôt que les pratiques traditionnelles, c'est souvent que en fait les médecins traditionnels ont une utilisation des aspects symboliques des plantes très forts, hein, c'est-à-dire qu'une plante qui a un latex blanc va avoir tendance à être utilisée pour favoriser les montées de lait chez les femmes, un arbre qui a beaucoup de fruits va favoriser la fertilité, et souvent on prétend que les animaux n'auraient pas ces références symboliques. Mais comme le mentionne Tobias, finalement, on n'en sait rien. Et peut-être que ils ont aussi cette capacité à associer des propriétés visibles sur un arbre à leurs propres besoins et au fait, peut-être simplement que l'autre procure du soin et de l'intérêt, tout de suite on se sent mieux. Et notamment par exemple pour les plaies, peut-être que le fait qu'un congénère vraiment applique quelque chose, c'est déjà un pas vers la guérison et en tout cas vers un mieux-être psychique et pas uniquement physique.
Et on pourrait aussi consacrer une heure d'émission sur la question de l'empathie animale, qui est encore un autre versant justement de ses capacités cognitives. Mais pour conclure, quand même un mot pour dire que les chimpanzés sont sur la liste rouge de l'IUCN depuis 2016. Ils étaient 2 millions au début du 20e. Aujourd'hui, on estime qu'il en reste moins de 250 000. Leur nombre diminue chaque année. Sabrina Krief, on est en train de se priver de précieux guides et de massacrer non plus un patrimoine animal et culturel.
Oui, alors on peut avoir un point de vue anthropocentrique et se dire oui, on massacre nos guides vers la médecine de demain pour les humains, mais il faut quand même replacer les choses dans leur contexte et simplement de se dire que ces espèces proches de nous disparaissent et avec elles l'environnement qui est le plus riche en biodiversité. Donc simplement ces espèces comme les chimpanzés qui vivent longtemps sur des grands territoires ont un rôle d'espèce parapluie, c'est-à-dire qu'en protégeant un chimpanzé pendant toute la durée de sa vie, 70 ans, si les conditions sont très bonnes, sur 25 à 50 km², on protège des milliers d'espèces animales et végétales pendant plusieurs générations. Et donc, c'est également crucial de se dire que ces connaissances qu'on acquiert sur leurs capacités, leur culture, ce sont aussi des patrimoines culturels et naturels qu'on risque de détruire avec la disparition des forêts tropicales.
Et puis c'est pas simplement une espèce fascinante que l'on pourrait perdre, mais une possibilité aussi d'en apprendre plus sur notre propre évolution. Alors dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais mille merci Tobias Deschner, merci Sabrina Krief. Pour compléter l'écoute, pour prolonger l'écoute, je vous invite à vous plonger dans cet ouvrage passionnant « Chimpanzés, mes frères de la forêt », votre ouvrage Sabrina Krief, paru en 2019 aux éditions Actes Sud. Et maintenant, on continue de parler des progrès de la primatologie avec les capacités des bonobos à faire des vocalisations complexes. C'est la chronique avec science.
« Les bonobos sont-ils capables de faire des vocalisations complexes? Ce matin, on accompagne les scientifiques dans les forêts humides de République démocratique du Congo. On part à la recherche des bonobos et déjà on approche, écoutez-les. Alors, ils sont assez mal connus de nos chercheurs, mais on sait qu'ils sont, avec les chimpanzés, nos plus proches cousins actuels. C'est-à-dire que nous partageons le même ancêtre commun et donc potentiellement certaines caractéristiques physiologiques et comportementales. Et ici, nous allons nous concentrer sur la communication. Les bonobos communiquent beaucoup par les gestes, mais vivant dans les forêts denses, ils doivent également faire des vocalisations pour se passer des messages sur de grandes distances et sans se voir. Bon. Ce ne sont pas de grands bavards, hein. Contrairement à ce que vous entendez là, ils n'émettent que 5 à 10 cris par heure. Et c'est ce qui rend l'étude de leur langage assez compliquée. Une nouvelle étude, tout juste parue dans Science, s'est tout de même attelée à la question. Et on en parle avec la première autrice de ce papier, Mélissa Berthet. Elle est spécialiste de la communication animale et post-doctorante à l'Université de Zurich.
Il y avait eu des études qui avaient été faites juste avant dans notre équipe sur les chimpanzés justement, qui avaient montré que les chimpanzés étaient capables de créer une combinaison syntactique, donc compositionnelle. La compositionnalité, c'est le fait que on peut avoir des éléments qui ont du sens, donc un petit peu comme des mots, et qu'on les met ensemble dans une phrase, et le sens de cette phrase est dérivé du sens des mots. Donc par exemple, si je dis une robe bleue, le sens de robe bleue est vraiment dérivé de robe et de bleu. Et c'est différent d'une expression un peu comme tourner autour du pot, par exemple, où là, son sens est vraiment différent de tourner et de pot, en fait. Ça, c'est plus une expression idiomatique, ça, c'est pas compositionnel. Donc nous, on cherche vraiment la compositionnalité ou voilà la syntaxe compositionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est crucial dans le langage humain parce qu'on s'en sert énormément toute la journée. Toutes les phrases qu'on fait, pratiquement, elles sont compositionnelles. Et du coup, on se demandait, est-ce que les bonobos aussi peuvent faire de la compositionnalité. Et nous, là, on s'est dit que ça serait aussi intéressant, en même temps qu'on cherchait si les bonobos avaient de la compositionnalité, d'essayer de faire une méthode plus efficace pour pouvoir étudier ça.
Alors, l'équipe de scientifiques s'est tournée vers des méthodes de linguistique pour comprendre le sens des cris des bonobos. Ils ont adopté une méthode plutôt fastidieuse mais efficace qui consiste à associer chaque vocalisation collectée à une liste de critères. Concrètement, pour chaque cri enregistré, il fallait cocher une liste de 300 paramètres contextuels. Au moment de la vocalisation, y avait-il un autre groupe à proximité de l'animal, oui ou non ? Était-il en train de manger, oui ou non ? Après le cri, un congénère s'est-il approché, oui ou non ? Et ainsi de suite. Les scientifiques ont ensuite établi des corrélations entre les situations et les cris, ce qui leur a permis de donner un sens à chaque vocalisation ou à chaque mot de bonobo. Et ils ont comme ça fait une espèce de dictionnaire de la langue de ces grands singes qui contient 7 mots. Alors, est-ce que les bonobos font des phrases avec ces mots ? Eh bien, les scientifiques ont révélé 4 combinaisons qui sont bien compositionnelles, donc dont le sens des mots s'ajoute pour donner un sens à la phrase. Mais ils se sont aussi rendus compte que 3 des 4 combinaisons étaient encore plus complexes puisque là, on ne fait pas qu'additionner. Comme dans Mauvais danseur, ce n'est pas une mauvaise personne qui danse, mais un danseur qui n'est pas bon. Ensemble, ces deux mots prennent un nouveau sens. C'est le cas du pip et du whistle.
Alors le pip, c'est un cri assez intéressant. C'est un tout petit cri qui est vraiment assez subtil et qui voudrait dire quelque chose comme « j'aimerais faire ça ». Donc par exemple, si l'individu est en train de commencer à se déplacer, il va faire un pip et c'est une façon d'inviter le groupe à « bon, j'aimerais bien que maintenant on se déplace ». Et le pip, il le combine avec un cri qu'on appelle le whistle, qui est un cri assez long. Et ce cri-là, il est utilisé surtout pour coordonner le groupe au niveau spatial. Donc le whistle, c'est vraiment un « on reste ensemble ». Donc on commence à se déplacer ensemble, on arrête de se déplacer ensemble, on continue à se déplacer ensemble. C'est vraiment dans ces contextes-là que le whistle est émis. Et donc lorsqu'on met le pip et le whistle ensemble, alors là, en fait, ça va être des contextes sociaux qui sont un petit peu tendus lorsqu'il y a vraiment du conflit. Et ils vont utiliser ce pip-whistle, donc quelque chose comme « j'aimerais qu'on reste ensemble », donc peut-être une façon un petit peu de demander à ce qu'on refasse la paix, entre guillemets. Peut-être une façon de demander aux autres « voilà, faites attention, il se passe quelque chose d'un petit peu tendu, restez vigilants, mais ça serait bien qu'on se calme ».
La compositionnalité simple est donc partagée par l'humain, le bonobo et le chimpanzé, ce qui nous laisse penser que notre ancêtre commun, il y a 7 à 13 millions d'années, devait aussi avoir cette faculté. Pour ce qui est de la syntaxe complexe, en revanche, on pensait qu'elle était l'apanage de l'être humain, et cette étude démontre pour la première fois que des animaux en sont également capables. La preuve en a été faite avec les bonobos, mais ils ne sont peut-être pas les seuls à disposer de cette capacité.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Loïc Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lausanne, Lou Anger, Antoine Bouchon, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.